Et nous allons discuter liberté d'expression avec un nouvel invité à cette émission et aussi un de mes anciens professeurs à l'Université de Sherbrooke, Maxime Saint-Hilaire. Bonjour Maxime.
Bonjour, monsieur Corona, je ne savais pas que je vous avais eu comme étudiant.
Je crois que à l'époque d'un échange, la première année où j'avais été à Sherbrooke, où j'étais en échange, je me souviens, en troisième année de droit, avec aussi un de nos anciens collègues, Mathieu Castonguet et d'autres collègues à l'époque de l'échange. Mais c'est il y a longtemps maintenant, c'est il y a plus de 10 ans et tout, ça rajeunit un peu, ça fait même, ouais. ça fait même plaisir. Donc on va discuter avec toi, Maxime, si tu veux bien, de liberté d'expression à la lumière donc, de ces tentatives d'assassinat de Salman Rushdie. Mais au-delà de la tentative d'assassinat et de ce qu'elle représente, c'est aussi beaucoup d'éléments et beaucoup de réactions qui sont assez évocatrices d'où en est ce droit et d'où en est l'évolution et la perception de ce droit par certains groupes politiques. Et pour ne pas brusquer d'autres groupes, on peut peut-être aller garder les voix de ces groupes-là. Et ma première question pour toi, c'est au-delà, donc en quoi Salman Rushdie, pour toi, incarne cette liberté d'expression face à ce qu'il appelait islamisme et fondamentalisme, tel qu'aussi le Monde, dans le cadre d'une excellente chronique, avait pu le dire avant-hier.
Alors, il incarne d'abord parce que Salman Rushdie s'autorise à s'exprimer librement à ses risques et périls.
C'est ça.
Depuis un bon moment, on se souvient de la fatwa, on se souvient de la suite de la publication des versets sataniques. Donc, déjà, je pense que il est une figure de la liberté d'expression, en mesure où c'est malgré les menaces de violence qu'il continue de s'exprimer, et de s'exprimer y compris en osant faire une critique religieuse. Donc, on rejoint un peu la question ici des conflits de droits qui est source de nombreuses controverses en philosophie politique et juridique, ainsi qu'en droit constitutionnel. Est-ce que la liberté de religion et l'égalité religieuse doivent être conçues de manière telle qu'elles peuvent entrer en conflit avec la liberté d'expression? Mais ce qu'il faut relever tout de suite, je crois, si je ne peux pas vous couper l'herbe sous le pied, ce qu'il faut relever ici, c'est que la liberté d'expression et de création littéraire de Salman Rushdie, elle est menacée dans la sphère privée.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas une contrainte étatique qui vient limiter sa capacité à s'exprimer. Or, c'est un discours avec lequel on nous rabat les oreilles depuis quelques années, le discours selon lequel la liberté d'expression ne serait un droit opposable qu'à l'État, alors que des menaces planent et pèsent lourdement. Et des menaces concrètes.
C'est ça, des menaces concrètes, tentatives d'assassinat contre Monsieur Rushdie dans la sphère privée, l'empêchant un peu de sortir sans garde du corps, l'empêchant de pouvoir vivre tel qu'une personne normale devrait vivre. Et surtout sur une question droit aussi, et c'est l'aspect entre le rapport entre le discours et l'État aussi, c'est comment l'État doit garantir cette liberté d'expression, au-delà dans le cadre de la liberté d'expression, dans la liberté de critiquer, voire de présenter la religion. Et c'est le droit, toute la question après le corollaire du droit au blasphème et autres, normalement, dans un État laïque, même un État tout court démocratique, ce droit-là est un corollaire normal et obligatoire de la liberté d'expression. Et le voir certains groupes, certains dire « oui, mais », et on retrouve un peu les mêmes mécanismes de l'époque de Charlie Hebdo, c'est se voir ce « oui, mais » qui apparaît de plus en plus dans le cadre de ce genre de discours, c'est quand même assez inquiétant pour voir comment cette liberté d'expression peut être respectée encore de nos jours.
Tout à fait. Alors, ce oui mais qui revient souvent. Ce oui mais était déjà le oui mais de Charles Taylor à la suite de la publication des versets sataniques. Et il est intéressant à l'heure actuelle justement de se pencher sur les ressorts précis de ce oui mais. En quoi consiste-t-il? Donc, évidemment, tout le monde va condamner les attentats. Évidemment, personne ne va cautionner le geste. Mais le oui mais fonctionne de la manière suivante. Il consiste à isoler le droit du social et de la culture de manière à reconnaître un droit juridique, si vous m'autorisez le doublon, un droit juridique à la liberté d'expression. Tout le monde salue la liberté juridique d'expression, mais entend ajouter ou grever l'exercice de cette liberté juridique d'obligation politico-morale.
C'est
et ça, on trouve ça entre autres chez Charles Taylor dans sa politique de reconnaissance, dans donc un article que moi j'ai toujours trouvé un peu brouillon, mais qui est extrêmement, qui a rendu Charles Taylor extrêmement célèbre. Il était quand même déjà connu avant, mais ça, disons que c'est un article qui a eu énormément de retentissement. Et dans ce texte, Charles Taylor nous dit, ben certes, la liberté d'expression existe, la liberté juridique, mais sur un autre plan, on aura un devoir politico-moral de reconnaissance qui empêche pas du tout, qui empêche pas toute forme de critique, mais qui nous obligerait à être particulièrement prudent dès lors qu'il s'agit de critiquer la religion d'autrui. Et il parle d'une présomption de valeur de la culture
religieuse,
des cultures globales, compréhensives, y compris culture religieuse, présomption de valeur. Et c'est assez intéressant, il ajoute qu'on ne peut s'autoriser à critiquer la culture et la religion d'autrui qu'au terme de son étude réelle. Donc là, c'est un peu comme s'il fallait
la critique est censitaire.
Oui.
La critique est censitaire, seul le spécialiste pourrait critiquer, la personne lambda ne peut se le permettre car elle ne saurait pas avancer. Ça fait un peu un élitisme intellectuel quand même.
C'est ce que j'ai toujours cru et il faut voir un peu ce que, bon, je ne suis pas en train d'attribuer à Charles Taylor la causalité des attentats de Charlie Hebdo, etc. Il faut voir les rapports qui sont observables quand même entre droit et société, c'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler totalement la liberté juridique d'expression pour dire certes ça existe, mais ce qui importe c'est un usage moral de cette liberté de sorte qu'il soit moralement aisément condamnable de critiquer la religion d'autrui. Et donc vite sous prétexte de reconnaître une liberté juridique d'expression, on en fait un droit dont l'exercice peut devenir socialement carrément périlleux.
Revenons un peu sur Salman Rushdie, parce que ces versets sataniques, historiquement, ce n'est même pas une critique de la religion, c'est qu'ils rapportent une tradition orale de Mahomet, une vieille tradition orale selon laquelle Mahomet, inspiré par le diable, aurait écrit quelques versets qui autorisent le culte de plusieurs dieux. Ces versets sont connus, ils sont intégrés à l'histoire de la fondation de l'islam, sauf que du fait de l'aspect politique et l'aspect assez infaillible, tel que la religion de l'islam a été transmise, surtout dans le cadre des différentes conquêtes et par la transcription des discours des différents calife, dans les premiers militaires de l'islam, la religion de l'islam et Mahomet est censé ne pas être infaillible comparé aux autres prophètes, car Mahomet et par l'intermédiaire le discours de l'islam, on met Dieu vraiment au cœur de toute la retranscription et du comportement humain comparé aux échecs des autres religions monothéistes qui n'auraient pas mis assez Dieu dans le cœur de leurs sentiments. Le problème, si on retranscrit le fait que Mahomet a pensé de la sorte, on se fait l'égal de ces autres religions et donc c'est assez infaillible. Il n'y a aucune critique, ça en retranscrit un peu l'histoire, d'où le fait de voir qu'en cachant un peu le discours, en n'allant pas un peu plus loin, sur un aspect politique par rapport à la critique de la liberté d'expression sur ce plat, on crée une sorte de double discours et on fait le jeu des différents islamistes fondamentalistes qui veulent critiquer et limiter cette liberté d'expression et de liberté de blasphème aussi, et de critiquer la religion pour leur propre jeu politique.
Je me sens pas en mesure d'arbitrer le fond, d'arbitrer sur le fond du propos, savoir si dans quelle mesure objective il s'agissait d'une critique, mais on voit quand même que dans un certain discours multiculturaliste, discours de la reconnaissance, il faut se garder de heurter certaines sensibilités religieuses. Et puis l'argument est relayé ou est complété aussi de celui d'un soi-disant ordre public, c'est-à-dire ou d'un soi-disant argument d'ordre public selon lequel il faudrait préserver la paix religieuse. On a vu
la
ça,
Concorde.
C'est assez regrettable, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui malheureusement a jugé ne pas violer la Convention européenne des droits de l'homme, une loi visant à préserver la paix religieuse qui finalement, à toute fin pratique, interdisait une forme de blasphème.
Et ça fait un peu rapport avec la loi qui est en ce moment en préparation du côté du gouvernement Trudeau sur la protection du discours religieux, où beaucoup de personnes pensent que cette loi pourrait un peu réintroduire le délit de blasphème. Si on critique trop fort, certains groupes pourraient s'attaquer à nous pour dire on n'a pas préservé une sorte de paix religieuse et autres. Donc on va, dans le cadre de cette vision multiculturaliste des choses et dans le cadre de cette volonté de préserver la paix et la concorde, on va empêcher un discours qui normalement serait censé, dans le cadre d'une critique constructive, d'un autre discours, et ici un discours religieux.
Et ce qui est éminemment paradoxal, c'est de voir ainsi la liberté de religion et son complément qu'est le principe d'égalité religieuse se retourner contre un fondement allégué de la liberté de religion qui est la protection de la liberté de conscience. Donc, pour certains auteurs, dont Martin Nussbaum, la liberté de conscience telle que Roger Williams la concevait se situerait au fondement même de la garantie de la liberté de religion. Or, dès lors qu'on accentue la dimension communautariste, institutionnelle et collective de la religion, dès lors qu'on veut protéger les susceptibilités religieuses et qu'on limite le droit de critiquer la religion d'autrui, on compromet les conditions mêmes d'exercice de la liberté de conscience. Sauf que ici, moi, je voulais insister sur cette espèce de geste qu'on observe aussi au sujet d'autres droits fondamentaux, notamment la présomption d'innocence, où on nous a dit pendant des années que la présomption d'innocence n'aurait de fonction, de valeur, de signification qu'au sein du procès pénal ou criminel. Ouais. Et de sorte qu'elle serait inapplicable en dehors de ce strict cadre. Or, on a découvert il y a quelques années, avec Dissonant et tout ça, qu'il y a quand même des limites à la manière dont on peut traiter comme un coupable, quelqu'un qui n'a jamais été reconnu tel. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions sur le droit à le droit à sa réputation.
C'est ça.
Donc, il y a des répercussions sur la diffamation, le droit à sa vie privée, etc. Donc, ce sur quoi j'aimerais insister ici, c'est que la liberté juridique d'expression, elle ne peut pas être aussi aisément isolée du contexte social au risque de finalement
de ne plus avoir valeur,
contrecarré par un système normatif parallèle qui va priver finalement le droit de ces effets normatifs et sociaux revendiqués et qui sont censés faire toute sa valeur.
Est-ce que tu penses que cette soumission du droit et des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, tels que la liberté de conscience et autres choses, tels qu'on le voit actuellement de plus en plus soumis à l'intérêt politique, est-ce que c'est problématique et est-ce qu'il faudrait mettre des garde-fous beaucoup plus puissants, ou ces garde-fous malheureusement ne peuvent exister du fait, par exemple, de textes fondamentaux tels que la charte qui mettent à l'avant plus des principes tels que le multiculturalisme. Et on voit la manière comment, par les cours, l'application de, par exemple, de la disposition sur le multiculturalisme est appliquée à l'analyse de tous les droits et après provoque ces dangers qu'on analyse actuellement.
C'est une question, à mon sens, d'une très grande pertinence et qui est extrêmement vaste. Je répondrai en deux points. Je vais tenter de répondre en deux points.
Ouais.
D'abord, je voudrais juste préciser que, contrairement à ce que peut laisser entendre le discours du 8 mai, sur le plan juridique, la liberté d'expression, comme les autres droits constitutionnels, n'a rien d'absolu. Alors, il y a des limites claires, nettes,
admises.
Le discours de haine, le harcèlement, donc la diffamation, la liberté juridique d'expression connaît déjà des limites, et ce serait peut-être intéressant justement de mieux les connaître, ces limites-là, plutôt que de supposer étant un droit absolu, la liberté d'expression aurait besoin d'un système politico-moral pour éviter des dérives. Ensuite, pour répondre plus précisément à ta question, je dirais que oui, c'est un problème. En fait, le défi est celui de l'interprétation, l'interprétation constitutionnelle, y compris l'interprétation faite, ou j'ai envie de dire d'abord l'interprétation faite de ces droits par les tribunaux, à commencer par la Cour suprême. Je dis à commencer parce que c'est la plus importante, parce que c'est celle qui se prononce en dernier. Mais le défi serait d'interpréter des documents tels que la Charte canadienne, qui est la Charte formellement constitutionnelle des droits et libertés, de manière à ce que les droits qu'elle contient forment un tout cohérent. Or, ce n'est pas vraiment ce que fait la Cour. La Cour a un peu renoncé à une reconstruction cohérente au sein de laquelle on saurait un peu plus précisément la fonction de chacun des droits. On saurait mieux où s'arrête un droit pour qu'un autre commence. Ce que la Cour fait, c'est qu'elle se rabat, si vous vous souvenez de votre cours.
Allô?
Donc ça, c'est un peu technique, mais ce que la Cour fait, c'est résoudre des problèmes un peu au cas par cas, en se demandant si à chaque fois, la mesure de l'État est proportionnée. Mais ce faisant, on juge au cas par cas, sans définir la portée de chacun des droits. Donc tout ça favorise une conception conflictualiste et des problèmes de conflit de droits où chacun tire la couverture des droits de liberté de son côté. Pour certains, c'est la liberté de religion. Pour d'autres, ce sera la liberté d'expression. On essaie de tirer ça de son bord.
Et conflictualiste et même...
C'est une impasse.
Conflictualiste et même très individualiste. Et à la fin, façon de parler, ce genre de droit est quand même assez lié au commun. Et en y tirant vers chacun de son côté, pour chacun des cas, des cas que ça peut apparaître, donc des cas précis, on égoïse un peu ce genre de droit et on y fait sortir de l'aspect du commun et de l'aspect du rationnel. C'est quand même assez problématique.
Ça pose la question aussi du rôle respectif des élus et des juges justement pour ce qui concerne l'interprétation des droits, mais l'intégration des droits dans un ensemble plus vaste de principes politiques et juridiques.
Merci beaucoup Maxime d'avoir répondu à nos questions ce midi. Je sais que tu as un dîner, que tu es assez pressé. C'est très gentil de ta part d'avoir pu répondre à nos questions ce midi. Et je te retrouverai quand tu le souhaites d'y venir discuter à l'émission de nouveau.
Ça
sera avec grand plaisir aussi. Passe une très belle journée. Je rappelle que tu es professeur à l'Université de Sherbrooke et spécialiste en droit constitutionnel. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. Julien Corona micro et Daniel Fortin, la réalisation. Bonne journée.